et bonjour. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous partager quelques messages et informations importants. Le premier, c'est merci. Merci, je le répète souvent, pour l'oreille qui écoute. Je ne sais pas si vous êtes dans le métro, dans votre lit ou en train de cuisiner, mais peu importe, merci. La seconde chose que je voulais dire, c'est que si vous me suivez sur Instagram ou que vous avez écouté certains épisodes précédents, vous savez que j'ai quitté mon emploi pour me lancer à mon compte. Non pas par opposition au monde salarié, hein, mais plutôt par besoin viscéral d'oser réaliser ce qui était devenu une évidence, et plus précisément deux activités, avec pour fil rouge les mots qui racontent des histoires et qui sèment des idées et impacteront au moins une personne, j'espère, d'une part en tant que consultante en communication et stratégie de contenu et rédactrice SEO, du coup mention spéciale pour les sujets autour de la santé, de la psychologie, de la nutrition et de la sexualité. Et ensuite, les mots pour aider d'autres personnes à rayonner par des suivis personnalisés réunissant mes connaissances en psychologie et en trauma, le tout infusé par une approche globale mêlant énergétique, tantra, polarité féminine et masculine, blocage émotionnel et outils somatiques sur lesquels je me forme depuis quelques temps. Et en vue de cette activité-là, j'ai créé un compte Instagram dédié et un nouveau podcast, Les mots, c'est bien beau, aux côtés de Pierre Kessial. Et je serai infiniment reconnaissante si vous prenez 2 minutes de votre temps pour répondre à un court sondage qui m'aidera justement à m'aligner aux besoins et challenges d'un maximum de personnes et qui vous concerne peut-être dans votre vie personnelle pour proposer justement des accompagnements réellement efficaces. Donc vous avez les liens de l'autre compte Instagram et du sondage dans la description de l'émission. Donc merci infiniment si vous prenez ces 2 petites minutes pour y répondre. Et pour terminer ce message, j'aimerais juste vous dire une phrase qui réunit un peu toute l'idée et tout ce qui m'anime. Raconter une histoire, c'est surtout raconter celle de quelqu'un qui a besoin de l'entendre et qui sera galvanisé par l'énergie perçue à travers ces mots-là. Voilà, je crois que c'est un bon résumé du fil rouge de ce vers quoi je vais et ce qui m'anime. C'est tout pour moi et du coup, bonne écoute.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bienvenue sur le podcast de Sois sage et parle fort, avec pour aujourd'hui un sujet qui devrait et même qui va tous vous intéresser et vous concerner. Les liens humains tissaient jadis un filet de sécurité, digne qu'on y investisse beaucoup de temps et d'efforts, digne qu'on lui sacrifie les intérêts individuels immédiats. Ces liens deviennent de plus en plus fragiles et sont désormais considérés comme éphémères. Des relations liquides, comme l'explique l'auteur Zygmunt Bauman. Les relations sont devenues des réceptacles à incertitudes, relations ayant désormais souvent pour point de départ le rapport sexuel, qui peut autant signifier le début d'une histoire que sa fin, laissant place au choix, au ghosting, ou à l'éloignement progressif, ou dans le meilleur des cas, à une relation de « friends with benefits », ou parfois pire, relation où l'incertitude totale est reine et la volonté de construire quelque chose de stable au prénommé absent. Les explications souvent floues, quand elles existent, celles qui reviennent souvent, la peur et le choix, la peur des sentiments, la peur de se livrer, la peur de risquer de s'attacher, parce que l'attachement serait relié à la fragilité. Pour les hommes, la mise à distance de l'émotionnel, de l'attachement et de la sensibilité, qui ferait d'eux des personnes faibles, ou les empêcherait d'avancer dans la vie. Pour les femmes, la construction d'une véritable muraille pour se protéger, être plus forte, libre sur le plan émotionnel et sexuel, histoire de se prémunir d'une énième déception, ou de messages à connotation sexuelle dès le premier échange. Être tous des chasseurs, métaphore parfaite de l'attitude relationnelle actuelle, où le désir n'est plus animé par la rareté d'une rencontre sincère, mais par une situation d'abondance permanente. Tinder, Bumble, Instagram, TikTok, messages instantanés, substances chimiques pour se désinhiber, choix illimité d'options, qui sait si la rencontre suivante ne sera pas plus stimulante. La relation amoureuse, en 2023, fait peur. La connexion émotionnelle est un choix que peu osent faire, préférant la légèreté au danger du choix. Alors, oui, ça fait peur. Oser prendre le risque de se mettre à nu et devoir se battre pour réinventer la relation chaque jour et la faire vibrer, considérant que la relation est synonyme de sacrifice et d'incertitude. Bref, vous l'aurez compris, un sujet sur lequel je n'ai jamais osé prendre la parole, parce que pour tout vous dire, je suis moi-même vraiment paumée. Et aussi parce que le manque de clarté actuelle est profondément lié à des mécanismes beaucoup plus grands que juste notre petite personne. Ça peut être lié à l'héritage familial, à la société, à l'éducation qu'on a eue, à notre travail sur nous-mêmes ou pas, le plus souvent, aux expériences et aux valeurs auxquelles on croit, à notre manière de considérer les autres, à notre rapport à la vie et à la mort qui peut quand même survenir demain matin. Et puis les comportements relationnels qui sont matrixés par des injonctions, la soif du pouvoir et de l'argent, la poursuite du plaisir constant et de la stimulation permanente, s'amuser, enchaîner, matcher, recommencer, tromper, mais surtout ne pas s'attacher. Bref, un sujet très vaste, et je ne suis heureusement pas seule pour le décortiquer, si on y arrive. Je reçois Pierre aujourd'hui, qui est chez moi. C'est le premier épisode que je fais en la compagnie directe de la personne. Une rencontre au hasard des réseaux sociaux, comme quoi ces derniers peuvent avoir du bon, parfois, quand on sait les utiliser. Donc, écoute, bienvenue Pierre. Première entrée en matière, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et d'où tu viens.
Alors déjà, bonjour et merci pour cet accueil du coup directement chez toi, qui effectivement est aussi une première pour moi, hein, puisque j'avais déjà fait un tout petit peu de podcasting avant, mais ça n'est jamais vraiment sorti. C'est resté à l'état de projet. Donc finalement, là, c'est quelque chose d'un peu tout neuf, d'arriver sur une scène qui est déjà un petit peu professionnalisée. Donc moi, je m'appelle Pierre Kessial. J'ai pas de problème à dévoiler mon identité, puisque j'ai décidé il y a quelques temps de créer un compte Instagram avec mon nom et mon prénom, histoire d'assumer un petit peu ce que je voulais dire au grand public. Donc je suis dans la vie développeur logiciel. Voilà, donc un travail qui a trait aux machines, alors que je suis extrêmement intéressé par les humains, en fait, à côté. Donc peut-être que ces choses-là s'inverseront un jour, mais toujours est-il que pour le moment, c'est ce que je fais. Voilà.
Ok, et donc tu as 28 ans.
C'est ça.
Ok, avec une maturité sur le sujet que peu de personnes de 28 ans ont, et même beaucoup, toute leur vie, n'ont pas, hein, je tiens à le dire. Alors moi, je suis tombée par hasard sur ton compte Instagram, il y a genre peut-être un mois, maximum un mois, parce que une de tes stories avait été partagée par Clémence Dutheil. Je recontextualise. Clémence Dutheil est une femme qui partage beaucoup de contenu sur les relations amoureuses, sur les énergies féminines, masculines, le couple, les rencontres, enfin bref, un petit peu tous ces sujets-là. Et elle avait partagé une story que tu avais réalisée. Donc je ne sais pas comment elle t'a connue, mais en tout cas, elle avait partagé une de tes stories où tu parlais du manque de clarté par les hommes et dans les relations de manière générale.
Alors je peux du coup redonner le petit morceau manquant.
Ok.
À la base, c'est moi qui suis abonné à elle.
Ok.
Puisque dans la sphère française, il n'y a pas énormément de personnes qui parlent de ces choses-là. Et d'autant plus avec la qualité qu'en parle Clémence, et elle le fait surtout du côté féminin. Donc je m'étais abonné à elle parce que je m'étais dit, enfin, une personne française qui met des mots assez justes, et notamment voilà, sur la partie féminine, que bah, moi étant un homme, je ne suis pas le plus, je ne vais pas dire à l'aise, mais en tout cas, voilà, c'est moins ma partie principale, quoi. Et donc du coup, j'étais simplement abonné à Clémence, et donc je voyais ses stories. Et elle avait posté une story où elle racontait qu'une de ses meilleures amies s'était faite larguer par un homme d'une manière assez abrupte, sans plus laisser de nouvelles. Et elle demandait aux hommes, selon eux, qu'est-ce qui faisait qu'une telle situation pouvait arriver. Qu'est-ce qui faisait que, pour les hommes, ils pouvaient comme ça lâcher et disparaître du jour au lendemain sans ne jamais rien dire. Et donc elle avait utilisé le petit encart qui permet de mettre quelques mots. Alors on peut pas mettre grand-chose là-dedans, mais ça a donné lieu à une bonne vingtaine de réponses, quelque chose comme ça. Et aucune des réponses ne m'a plu, en fait. J'ai regardé ça de manière totalement atterrée de la qualité des réponses. Ça a emmené dans des directions que je trouvais très, très instables et que, voilà, qui ne me plaisaient pas du tout. Et surtout que je savais aller terrifier encore plus les gens qui allaient les lire, quoi. Il y avait peut-être à la fin une réponse d'un homme qui disait quelque chose du genre... mais c'est parce qu'on est lâche, lol.
Ah, voilà, donc
c'était c'était le plus vrai, on va dire, de tous les messages qu'il y avait, mais voilà, c'était presque pas totalement assumé, quoi. Donc j'ai simplement envoyé un message, à ce moment-là, j'ai simplement réagi à chaud, en envoyant directement un message à Clémence, en fait, sans passer par la petite boîte, parce que je crois qu'en plus, cette story-là était déjà terminée. Et puis on voyait au fur et à mesure que Clémence posait les réponses sur sa story qu'elle se démarquait très clairement du niveau de réponse qui était donné. Donc voilà, je lui ai simplement dit que pour moi c'était un problème de clarté, c'est-à-dire de clarté dans la communication, dans les attentes, dans ce genre de choses, dans la situation dans laquelle on est quand on rencontre quelqu'un. Peut-être même que cette personne-là, donc cet homme-là, jouait entre guillemets double jeu, c'est-à-dire qu'il parlait à plusieurs personnes à la fois, et très potentiellement il y en a une qui lui a vraiment plu, et il a abandonné toutes les autres d'un seul coup, en fait. Okay. Et du coup, effectivement, une part de lâcheté à ne pas dire aux autres personnes avec qui il était en contact que voilà, ça aurait pu être ça. Alors, je n'ai pas la réponse finale, hein, évidemment, derrière ça, mais c'était mon avis sur la question. Et donc, Clémence m'a recontacté le lendemain, en me demandant si elle pouvait poster ce commentaire de manière anonyme sur sa story, histoire de mettre un petit peu de contraste, surtout, ouais, vis-à-vis des messages. Et donc, je me suis dit, ben, je vais assumer ce que j'ai dit aussi. S'il y a des gens qui veulent venir débattre avec moi dans mes DM ou quelque chose comme ça, j'ai pas de problème avec ça. Ce sera même très intéressant comme exercice, donc pourquoi pas assumer ça, quoi. Et donc, elle l'a reposté avec mon compte. Et là, soudainement, ben, voilà, j'ai eu une avalanche d'abonnements qui sont arrivés avec des tas de messages de femmes qui me remerciaient, du coup, d'apporter ce contraste un petit peu, de montrer qu'il y avait d'autres réponses possibles que ce qui avait été posté là. Chose que je comprends, puisque le compte de Clémence n'a pas beaucoup d'hommes, globalement, mais on s'attendrait à ce que ce soit des hommes un peu plus qualitatifs, on va dire, sur les approches, puisque bah, il s'agit de Clémence. Mmh. Et là, spécifiquement, sur ces messages-là, vraiment, le niveau n'était pas dingue, quoi. Mmh. Donc j'ai eu beaucoup de messages de remerciement, effectivement,
ouais,
avec ça.
Ça ne m'étonne pas. Alors, je vais juste une petite précision pour l'épisode sur lequel on va débattre, là, sur les sujets sur lesquels on va débattre. Histoire d'éviter toute réclamation post-épisode, je tiens à préciser que nous traiterons aujourd'hui des relations hétérosexuelles, sauf si on décide d'aborder les relations homosexuelles, mais parce que je pense que finalement, ce sont les relations hétérosexuelles qui posent le plus de questions et de problématiques, on va dire, actuellement. C'est peut-être justement parce que quand il y a deux hommes ou deux femmes, la clarté est peut-être plus présente. Je sais pas. J'ai pas les éléments de réponse, mais toute personne concernée par cette situation relationnelle sera la bienvenue pour échanger. Il y a sûrement d'autres difficultés à gérer. Et c'est surtout aussi parce que ça reste encore la majorité des relations dans le monde et puis en France. Voilà. C'est en tout cas celle qui, à mes yeux, pose le plus de soucis et dont on entend le plus parler, que ça soit en termes de déséquilibre, de violence, de déception, de frustration ou autre. Donc voilà, mais c'était la petite précision de début d'épisode, et du coup je comprends mieux le contexte. C'était sur cette story-là que j'étais tombée effectivement, et après je me suis abonnée. Je me suis dit, tiens, il démarre son compte, il poste des sujets, il y a 2-3 posts, là je vais suivre ce qui se passe. Et toujours très intéressant. J'ai regardé toutes les stories qui étaient à la une. J'ai dit, ah ouais, et tout, super. Enfin, donc je conseille toutes les personnes qui nous écoutent à aller sur le compte de pierre.kessial pour aller regarder ce qui est proposé. Donc, on parle aujourd'hui de ce sujet un peu complexe. La question que j'aime bien poser à mes invités, c'est voilà, de savoir quel enfant tu étais. Dans quel type de schéma familial tu as évolué, quel adolescent tu étais, comment tu t'es construit par rapport à ces sujets, en gros.
Long sujet. Moi, je suis né dans les années pré-2000, et en fait, toute ma famille aussi est née dans les années pré-2000. Donc, c'est vraiment, on a vécu l'avènement de l'Internet tel qu'il est, mais on a commencé à grandir sans ce truc-là, en fait. On a commencé à grandir sans Internet très rapide, etc. Donc, au début, j'avais vraiment l'enfance banale. On peut imaginer un petit peu partout, donc des parents, un père cadre, une mère institutrice qui se sont mariés assez tôt, voilà, ils se sont rencontrés quand ils avaient 17-18 ans, ils se sont mariés aux alentours des 20 ans, voilà, parce qu'en fait ma sœur est apparue, ils se sont dit, bah voilà, on va avoir un enfant, donc on va créer un foyer pour accueillir tout ça et on se lance. Donc c'est un petit peu comme ça que c'est parti. Et j'avais une vie où tout allait bien, hein, globalement. J'avais mes deux grands-parents des deux côtés, voilà. On avait des grandes réunions de famille. Moi, j'ai vécu tout ça, les grandes réunions de famille. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, j'aime beaucoup. Alors, moi, je dis grandes familles, voilà, c'est des familles de 20, 30 personnes. J'ai entendu il n'y a pas longtemps des gens avec des familles de 80 personnes, donc ça m'a mis un petit peu une perspective là-dessus. Mais pour moi, c'est grand, quoi.
Voilà. Ouais, ok.
Pour moi, c'est grand. Et... J'ai d'abord été une petite pile électrique quand j'étais petit, c'est-à-dire que je bougeais partout, je sautais partout, j'allais dans tous les sens, aux grandes dames de ma mère notamment. Et puis ça s'est calmé aux alentours de mes 7-8 ans, quelque chose comme ça, et je suis devenu tout calme ensuite, un petit peu effacé même, un petit peu trop effacé, sauf évidemment quand on me mettait avec mes grands amis... aux alentours du collège, etc. On faisait beaucoup de bêtises, évidemment, mais sinon, globalement, voilà, j'étais un petit peu effacé. Et je suis resté comme ça, très, très observateur, même le long de mon adolescence, en fait. J'ai pas eu énormément de choses qui m'ont demandé de vraiment me mettre en avant. Donc, du coup, je suis resté dans cette posture-là, c'était quelque chose d'un peu sécurisant. Je pouvais être vite apeuré de certaines choses, du social notamment, assez apeuré du social. Donc, j'ai des souvenirs, par exemple, où. Ma mère qui me demande d'aller acheter du pain dans une boulangerie, c'était terrifiant pour moi.
Ok. T'étais pas voilà. Le leader dans les groupes, t'étais le suiveur.
Pas du tout. Moi, j'étais totalement un suiveur. Okay. Je venais me rattacher au groupe autant que je pouvais et j'avais pas énormément d'impulsion à ce niveau-là. Mais parce que je me sentais pas particulièrement d'en avoir non plus. Mais quand on est enfant, on le vit comme ça, on a l'impression que c'est comme ça et puis on s'adapte, quoi. C'est beaucoup plus tard que j'ai compris qu'en fait, ça s'apprenait et deux, ça se décidait. Aussi.
Effectivement.
De ce genre de choses. Alors du coup, vu qu'on parle de relationnel, je vais forcément parler un petit peu de mes relations en direct. Alors j'avais eu une première relation un peu longue, on va dire, surtout pour cet âge-là, aux alentours de 12-13 ans, quelque chose comme ça, donc un an et demi.
Ah ouais, quand même.
Avec quelqu'un, ouais.
Beau score.
Donc bon, c'était tout mignon, hein. Ouais. C'était tout mignon, mais c'était une relation vraiment très amoureuse, amoureuse mignon, donc ça a quand même forgé quelque chose en moi, puisque ça m'a fait ressentir beaucoup de choses à ce moment-là, et ça, vu que c'était la première... Ça a installé un précédent, j'avais une certaine attente en fait de comment est-ce que ça devait se passer. Alors ça a duré un an et demi, voilà, on s'est séparés au collège, pas de grandes histoires particulières à ce niveau-là. Et ensuite ça a été plutôt le calme plat.
Okay.
Plutôt calme plat jusqu'au lycée. En fait comme j'étais assez timide, j'étais même très timide, globalement même s'il y avait des jeunes filles qui me plaisaient, j'allais pas vers elles. Et puis même si on en arrivait à parler, etc., il n'y avait aucune polarisation en fait, aucune... C'était pas un homme et une femme ensemble, c'était plutôt deux amis, quoi.
Ouais.
C'était ça,
aucune démarche de type séduction
Non, voilà, c'était très très loin de mon univers. Je ne voyais pas vraiment comment les gens faisaient. Pour moi, c'était quelque chose de naturel, de natif, c'est-à-dire la personne, elle est comme ça ou elle n'est pas comme ça. Et moi, je n'étais pas comme ça. Donc, je faisais comme je pouvais avec les émotions que j'avais à ce moment-là, quoi.
Ok.
Je suis arrivé jusqu'au lycée. Là, j'ai eu des petits problèmes au lycée. J'avais même eu à un moment donné, j'avais quand même un rapprochement avec une fille qui me plaisait et à qui je commençais à plaire, et puis en fait il s'est passé quelque chose avec un autre gars qui a priori, d'après mon analyse en tout cas, était aussi intéressé par cette jeune femme, et donc du coup il m'a mis des bâtons dans les roues et ne sachant pas me défendre,
tu t'es retiré,
j'ai trébuché comme pas possible et je suis resté au sol. Globalement ça a été très compliqué pour moi, et il a un petit peu retourné ma classe contre moi en fait.
Oh.
À coup de rumeurs et en me mettant la honte en fait, puisque j'avais certains comportements, voilà, de personnes timides qui étaient un petit peu voilà, on voit très bien ce que c'est une personne timide, quoi. Ça fait des petites gaffes, ça fait des choses comme ça, et il s'amusait à les raconter à tout le monde.
C'est toujours sur les personnes timides que va le harcèlement, c'est beaucoup plus simple.
En fait, quand on est timide, on a du mal à se défendre, et le harcèlement vient sur les personnes qui ne peuvent pas se défendre, parce que dès qu'on arrive à se défendre en fait, en général ça se passe bien.
Et oui, c'est QFD, je connais.
Le harcèlement s'arrête. Donc du coup, j'ai vécu ça, j'ai réussi à plus ou moins recoller les morceaux à la fin avec ma classe, mais ça a été compliqué. Vraiment, les années lycées, c'était très difficile. Et ensuite, je suis parti dans une école d'informatique. Et les écoles d'informatique ne sont pas particulièrement connues pour
attirer la gente
féminine. Et je le comprends très très bien, c'est un domaine très particulier. Et les hommes qui y sont là-bas sont encore plus particuliers parmi les hommes, d'une certaine manière. Donc j'avais une promo avec quatre femmes, ce qui était extraordinaire. Sur 40 personnes, donc on avait quand même 10% de femmes. Mais voilà, il n'y avait pas énormément d'occasions, on va dire, de socialiser avec les femmes de manière vraiment, séductrice ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Et puis, les grandes études, etc., c'est quand même beaucoup marqué par les sorties au bar, les choses comme ça. Moi, c'est pas du tout mon délire. Les boîtes, j'étais jamais allé dans une boîte, ça m'intéressait pas. Boire, ça m'intéressait pas particulièrement. Voilà, tout ce genre de trucs. Donc, je ne me mêlais pas trop au groupe. J'étais plutôt le profil orienté jeux vidéo, on va dire.
Okay.
Donc, on rentre chez soi, on va sur les jeux avec les copains. Et puis, on joue jusqu'à la fin de la nuit. Et voilà.
Okay.
Donc, c'est pas un environnement où il y avait...
Très propice aux rencontres.
Voilà, ouais. Très propice aux rencontres, évidemment.
Puis, c'est vrai qu'à cette époque-là, donc, c'était dans les années 2010, 2000, même 12, 2012-2013.
Ouais, c'est ça.
Ouais, parce qu'on a le même âge. C'était pas encore l'avènement incroyable des applis de rencontre. C'était pas encore non plus. C'était pas aussi présent qu'aujourd'hui.
Alors je me rappelle avoir installé Tinder au tout début, quand les gens justement commençaient à en parler, et que je m'étais quand même rendu compte à un moment donné que je faisais pas beaucoup de rencontres en fait. Mais il y avait pas toutes les connotations que ça a aujourd'hui en fait. Le réseau se cherchait encore, on va dire. C'était aux alentours de 2013-2014 justement. J'étais en stage pour mes études, et du coup, vu que toute ma promo était en stage, on ne se voyait plus en fait. Et à mon école, on avait vite des stages qui pouvaient partir assez loin, donc on ne se voyait pas trop. Et là, c'est une période où je me sentais particulièrement seul, et je me disais, ce serait bien de rencontrer de manière amicale en fait,
ouais, à ça, ce
stade. Je n'avais pas vraiment d'idée de ce que je cherchais tout particulièrement, mais bon, comme on doit sélectionner son sexe et puis qu'on sélectionne le genre de personne qu'on veut voir sur l'application, moi j'avais évidemment choisi les femmes, donc j'ai quand même eu quelques expériences à ce niveau-là. Enfin, expérience, non, on va dire conversation, voilà, puisque je n'ai jamais rencontré personne
cette
époque-là. Non, en fait, je comprenais pas très bien comment ça fonctionnait, évidemment, puisque même dans la vraie vie, je comprenais pas très bien. Donc, quand il s'agissait d'avoir des conversations, ça donnait des trucs un petit peu bizarres. Mais je me souviens très bien que j'avais du mal à comprendre la communication féminine. Hein, très clairement, je me souviens de certains débats avec des femmes où je leur disais, mais pourquoi c'est pas logique? La manière dont vous parlez, vous dites certaines choses, mais en fait, vous agissez différemment.
Ah ouais?
Et moi, j'arrive pas à piger. J'arrive vraiment pas à piger.
Genre?
Oui.
Genre, je sais pas... En quoi tu... Enfin, genre, un exemple, je vois pas en quoi ça peut
être... Par exemple, des choses qui... Des dires qui traduisaient un intérêt verbal, mais pas d'intérêt sur la rencontre ou ce genre de choses, par exemple. Donc, dans un jeune cerveau qui connaît pas tous ces machins-là, il y a une déconnexion. Pour moi, c'était simple, c'est si on se plaît, on se rencontre, on se parle, on se voit, tu vois.
Ah, attends, faut que je me note dans ma tête de te poser une question à un moment donné, parce que... J'ai discuté avec mes amis toute cette semaine de cet épisode qui allait venir, et elles m'ont dit, faudra que tu poses cette question. Donc je retiens à propos de ça. Je me le note.
Bon courage.
Ok. Ouais, ok.
Mais bon, on va pas trop digresser sur le côté réseaux sociaux pour le moment, on en parlera après, je pense.
Ouais.
Plutôt. Mais ça a rien donné à l'époque. Ça a rien donné, puis j'ai fini par redésinstaller. Mais j'ai quand même fini par rencontrer quelqu'un à un moment donné, grâce à mon cercle familial, du coup. Et c'était pareil, c'était un petit peu au même niveau que ma toute première relation. Voilà, ça a commencé très mignon, juste il y avait l'attraction, mais on n'en faisait pas forcément quelque chose. Voilà, tout le côté un peu papillon. Il y avait pas de séduction active vraiment, mais on adorait passer du temps ensemble. Et comme on avait des manières un peu régulières de se voir grâce à certaines occasions, je n'irai pas forcément trop dans les détails parce que cette histoire-là est un peu plus personnelle que d'autres. Voilà, on voyait qu'on aimait passer du temps ensemble. Et donc ça a mis 8 mois comme ça, avant qu'il se passe réellement quelque chose et que je me décide enfin, à la fin, à l'embrasser en fait.
8 mois ?
Ouais.
Mais 8 mois ?
Ouais, 8 mois.
Respect.
Parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Et...
Ah ouais ?
Et la timidité faisait que je savais pas exactement ce que je faisais. Puis tout était beaucoup dans l'esprit. Il y avait beaucoup de préparation dans l'esprit. Alors elle était pas dans la même ville que moi, donc on se voyait pas non plus.
Ouais, okay.
On se voyait pas non plus toutes les semaines, quoi. Donc c'est ça aussi qui a joué, mais il y a toujours eu une espèce de temps long, quoi, chez moi. Ça, j'ai toujours aimé cette pente, en fait, qui se gravit petit à petit aussi, parce que c'est des moments qu'on apprécie avec la personne. Il n'y a pas d'arrière-pensée particulière, il n'y a pas énormément de pression encore à ce moment-là à faire quoi que ce soit. La pression s'est construite plutôt à la fin, et c'est pour ça qu'à la fin, je me suis dit, bon, j'ai envie de faire progresser les choses. Donc j'ai fini par l'embrasser à ce moment-là, et là, on s'est vraiment mis ensemble.
Attends, juste, vraiment, respect, parce que j'ai l'impression que désormais, c'est dès la première rencontre qu'il doit se passer quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est...
Ça a évolué comme ça plus tard.
Ce que j'ai expérimenté, c'est vraiment... Il n'y a plus ce truc-là d'apprendre à connaître, de s'intéresser, de se laisser le temps de savoir si il y a les mêmes centres d'intérêt, etc. Il n'y a plus tout ça.
On en reparlera parce qu'en fait, je suis revenu aujourd'hui à ça. Mais je suis passé aussi dans cette phase où il fallait que ce soit assez rapidement, au début, à la rencontre, etc. Comme si ça validait quelque chose. Donc on pourra en reparler, effectivement.
Ok.
Mais juste terminer sur le petit parcours.
Ouais.
Globalement, c'est cette relation-là, en fait, qui a très bien commencé, on va dire, qui était vraiment super. Et je me voyais faire ma vie avec cette jeune femme. Mais en fait, au bout d'un moment, la relation a commencé à péricliter, petit à petit, vraiment tout petit à petit. Et on avait évidemment des challenges personnels, et notamment sur le côté de la sexualité. Bon, ça, c'était dû à certains traumatismes personnels, etc. Mais à mon avis, rien qui n'aurait pas été solvable si on y avait mis le temps au bout d'un moment. Mais au-delà de ça, il commençait à se passer des choses un petit peu étranges. Notamment, elle finissait sans s'en rendre compte, à part me manquer de respect. Et moi, je ne m'en rendais pas compte non plus. On s'en rendait compte après coup, en fait. Et c'était très particulier. On n'arrivait pas à savoir exactement comment est-ce que ce truc-là naissait. Et en fait, au fur et à mesure que le temps passait, il y avait une espèce de mépris, en fait, qui commençait à s'installer chez elle. En parallèle de son amour pour moi. C'était une situation très étrange. Et donc, j'ai vu la relation commencer à décliner lentement, lentement, lentement. Au bout d'un an, un an et demi. Quelque chose comme ça. Donc, un an et demi après les 8 mois. Parce que je considère que les 8 mois, c'était avant le fait qu'on soit vraiment mis ensemble. Il y a eu 3 ans supplémentaires derrière ça. Et donc, je ne savais pas pourquoi. Donc, j'ai essayé de trouver des conseils à droite à gauche. J'ai demandé un petit peu. Mais ce que j'entendais ne me satisfaisait pas du tout. J'arrivais pas à trouver des infos que je trouvais pertinente en fait pour ma situation. J'ai évidemment essayé de chercher un petit peu sur internet, mais ne sachant pas ce qui était en train de se passer, j'avais pas les bons mots clés, je ne savais pas quoi chercher, c'était encore assez tôt.
Là, t'avais quel âge?
Là, on était aux alentours de 2016-2017.
Ok.
Donc c'était ouais, j'avais 22-23 ans.
Ok.
Ouais. Donc j'ai pas trouvé grand chose et la relation a fini par se casser la figure. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir un ami avec qui je me suis re-rapproché en fait à ce moment-là et qui m'a beaucoup aidé en fait.
Okay.
Et qui m'a fait me rendre compte que bah, effectivement je me laissais marcher dessus de manière générale. Alors les autres personnes autour de moi me disaient mais elle te traite pas bien, elle pointait le comportement de ma copine alors que lui pointait mon comportement.
Ah.
Et ça fait une grosse différence.
Ouais.
Donc là c'était ma faute, c'était à moi de me rendre compte de certaines choses et c'est moi qui laissais passer ce qui était en train de m'arriver, en fait. C'était pas la faute de elle qui... Donc c'est pour ça que j'arrivais pas à faire confiance à ce que disaient les autres. C'est que quand ils pointaient elle, moi j'étais amoureux, je voyais toutes les bonnes choses qu'elle faisait à côté, je savais ce qu'il y avait au fond d'elle, donc je savais bien qu'elle était pas mal intentionnée. Mais là, quand il a commencé à pointer ce que je faisais moi, là j'ai commencé à voir les choses un petit peu différemment. Malheureusement, la relation était allée un peu trop loin à ce niveau-là, et donc quand je me suis retiré de la situation, parce qu'on en était arrivé à un point où elle me considérait plus comme il fallait... on n'a pas pu continuer. Voilà. On n'a pas pu continuer. Je me suis rendu compte en fait que j'étais pas au bon endroit, qu'il fallait vraiment que j'aille apprendre comment comprendre ce qui s'était passé et pourquoi il y avait eu en fait une espèce d'inversion. Pourquoi est-ce que on pouvait aimer et en même temps casser du sucre sur la personne même sans s'en rendre compte. Et donc je me suis lancé en fait à ce moment-là. C'est là où en fait j'ai un petit peu découvert comme toi. C'est là où ma fin est arrivé, ma fin de la vie, où là je me suis dit mais en fait il y a tout un monde à découvrir, il y a plein de relations différentes, il y a plein de personnes différentes, de mentalités différentes, de cultures différentes, il y a plein de choses à découvrir, donc je me suis lancé comme ça.
Okay.
Et ça c'était il y a 5-6 ans maintenant, donc c'était toute fin 2017, début 2018.
Et depuis t'as pas eu de relation?
Or si, j'ai eu des relations depuis, mais pendant quelques années je me considérais comme totalement incomplet. Et j'étais incapable, en fait, de me relancer dans une relation sérieuse, on va dire.
Okay.
Donc, de très longue durée, malgré que ce soit ce que je cherchais. Mais parce que, en fait, être passé par cette relation et l'avoir vue m'échapper, me couler entre les mains, ne pas pouvoir la rattraper, ça avait inscrit quelque chose en moi que j'étais pas suffisant. Là où j'en étais, c'était pas suffisant. Et c'était vrai, d'une certaine manière, puisqu'il fallait que j'aille découvrir certaines choses de moi pour ensuite pouvoir l'amener dans la relation et avoir quelque chose de stable et de correct. Mais en même temps, ça avait marqué quelque chose. Voilà. Et il m'a fallu un certain temps avant de redécouvrir que bah, c'est bon, en fait, j'avais fait suffisamment de trajets et que je pouvais me relancer correctement et que ça n'allait pas se recasser la figure, que j'avais une sorte d'expertise, voilà, que j'allais pouvoir repérer quand est-ce que ça n'allait pas et puis avoir les bonnes actions correctrices pour ramener le couple dans une direction pérenne.
Ou trouver quelqu'un qui était dans la même lignée que toi. Parce que,
ou bon, trouver quelqu'un. Mais comme j'ai quand même passé les 3 dernières années avec quelqu'un,
okay.
Avoir la même personne. On a commencé de manière pas exclusive, donc il y a eu quelques petites rencontres à côté, mais qui en fait m'ont fait me rendre compte que je ne souhaitais pas rencontrer et que je souhaitais cette personne-là uniquement. Donc ça a mis quand même un certain temps à s'engager. Puis la personne en face de moi, pareil, de manière miroir, en fait, n'était pas totalement prête à s'engager non plus. Donc en fait, au début, on était vraiment dans une situation où ça nous allait très bien. Ça nous allait bien de juste être ensemble. C'est la période où il y a eu le Covid, etc. Donc on en est arrivé à confiner ensemble, par exemple. Donc on se découvrait, mais on n'avait pas besoin de mettre des mots sur l'attachement encore à ce moment-là. Voilà, ça nous suffisait.
C'est dangereux quand même, cette zone grise.
Alors là, on se cherchait, donc finalement, ça va. Ce qui est dangereux, c'est si on n'en sort jamais. Ouais. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, j'en suis sorti, donc j'ai pu revenir et lui proposer, ok, là, je te propose quelque chose de sérieux, parce que maintenant, je sais où je vais.
Ouais.
Je sais ce que j'ai envie de faire, etc. Et je pense que c'est avec toi que ce sera faisable. Est-ce que t'en as envie aussi? Et puis, du coup, j'ai mis ça sur la table. Elle a fini par accepter, et puis on a continué comme ça.
Ok.
Mais ça, c'était les 3 dernières années, et vu que j'ai dit que ça faisait 5-6 ans... Les premières années de cette période-là ont d'abord été dans l'exploration, dans le voyage, dans la recherche de mentors aussi, beaucoup. J'ai essayé de chercher des hommes, notamment, qui pouvaient m'apprendre ce qui me manquait. Parce que je savais qu'il me manquait quelque chose, mais je ne savais pas quoi exactement.
Et t'as trouvé ?
J'ai trouvé, okay. Heureusement. Alors, j'ai trouvé dans le sens où j'ai réussi à remplir mon vase correctement, on va dire, suffisamment. Maintenant, c'est que la curiosité. Il y a énormément de choses encore à découvrir que j'ai envie de trouver aussi, parce que ça m'intéresse. Mais j'ai trouvé suffisamment pour avoir une base solide aujourd'hui.
Donc en fait, c'est le travail sur toi qui t'a éclairé sur comment construire ensuite des bases solides dans un couple plutôt que... Enfin, en gros, c'est le travail sur soi qui permet finalement peut-être d'avancer mieux dans les relations.
Alors là, je ne sais pas si on peut vraiment parler de travail sur soi. Alors, évidemment, il y en a, puisqu'il y a de la remise en question, il y a des analyses. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à juste essayer de voir comment est-ce que j'avançais, en fait. Parce que quand on est pris à l'intérieur du process... on se rend pas compte qu'on est en train d'avancer. Et on a vite l'impression qu'en fait, on n'avance pas.
Mm.
Et c'est quelque chose qui m'a pas mal déprimé pendant un certain temps. J'avais l'impression de ne pas avancer, alors qu'en fait, ça avançait. Mais du coup, j'étais quand même encore en train de chercher toujours. Je ne savais pas encore où est-ce que j'en étais. Je pensais qu'il me fallait toujours plus, qu'il fallait que j'aille découvrir encore plus, etc. Et j'essayais de moduler ça, de discuter, voilà, ça c'était le travail sur soi. Mais ce que m'ont appris mes mentors, j'aurais jamais pu le découvrir comme ça sans être allé vers quelqu'un d'autre.
Ok.
Parce qu'il fallait aller trouver quelqu'un qui avait déjà fait en partie ce travail-là et qui savait rediriger, parce qu'en fait, il y a tellement de directions possibles que si t'en choisis juste une et que t'essayes d'aller au bout, tu risques de te planter, ça va te prendre un certain temps et tu peux pas faire ça toute la vie. Donc aller trouver des personnes qui ont déjà fait ce travail-là, qui elles-mêmes avaient des mentors, en fait, ça permet de rapetisser un petit peu le champ des possibles et de commencer à aller se diriger vers quelque chose qui a déjà fait ses preuves.
Voilà. Et ce que tu appelles mentor, c'est quoi ? C'est des psys ? C'est des auteurs ? C'est des amis ?
Alors, je dirais pas amis, puisque la relation de mentorat ne tombe pas dans la même case.
Okay.
Même si à des moments, on peut se sentir très proche, c'est pas de l'amitié, parce que ça dépasse un petit peu ce cadre-là. Après, parfois, on rattrape un petit peu le mentor, et puis on finit par être au même niveau, et là, peut-être une amitié peut se former, mais je considère pas ça comme une amitié. Même si, à l'époque, je pouvais le considérer, parce que j'avais pas encore les limites bien déterminées sur qui était un ami, qui était un mentor, qui était autre chose, etc. Là, au début, quand je me suis lancé, c'était... Donc, comme je te l'avais dit, en fait, tout à l'heure, évidemment, quand on ne sait pas et qu'on cherche, on tombe vite dans le domaine de la séduction. Donc au début, je pensais que c'était des personnes dans le domaine de la séduction qui allaient m'aider pour comprendre les femmes, etc. Puisque ces hommes-là se vendent comme ça, se vendent comme tels. Le truc, c'est que je me suis vite rendu compte que c'était tout un réseau de gens plus ou moins compétents et plus ou moins humains et plus ou moins corrects dans leur approche. Et donc, je me suis mis en tête de trouver des gens qui me parlaient. Et pas juste des gens qui donnaient des solutions que j'allais appliquer bêtement, etc. Donc j'ai quand même fait un travail de sélection, on va dire. Donc j'écoutais les messages, et puis si ça me parlait, si ça vibrait avec les expériences que j'avais déjà eues dans mes relations avant, si ça avait pour moi le pouvoir de m'amener dans la bonne direction, alors là, j'écoutais plus et j'allais vraiment vers cette personne-là. Sinon, je passais à autre chose. Et donc en fait, je suis monté d'escalier en escalier comme ça en fait. Je prenais une marche ou deux, je trouvais ça intéressant, puis très vite je voyais les problèmes que ça posait. Et hop, j'allais trouver quelqu'un d'autre qui compensait ces problèmes-là avec d'autres choses. Et puis je montais comme ça. Et puis j'ai fini par rencontrer mes mentors en fait comme ça, qui eux à la base aussi un petit peu, étaient aussi passés en fait par cette phase-là. Et on était ressortis ensuite derrière, vers quelque chose de plus humain. Et c'est là où ça a vraiment connecté en fait. Et j'ai même des mentors que j'ai rencontrés qui étaient encore à l'intérieur de ce truc-là et qui, de par notre rencontre, ont changé, en fait, tout simplement. en amenant quelque chose pareil de plus humain dans la relation qu'on avait. J'avais notamment rencontré quelqu'un qui est devenu extraordinaire aujourd'hui, mais à l'époque, il était alcoolique, il avait des problèmes de drogue, etc. Il avait quand même des choses à m'apprendre, évidemment, à côté de ça. Mais c'était quelqu'un qui avait une enfance très, très difficile, avec des rejets graves au niveau des parents, etc. Je passerai sur les détails. Donc, il avait des problèmes et il s'est passé une fois où, en fait, il a fondu en larmes, en fait, en face de moi. Pendant qu'on explorait des choses de traumatisme, etc. Donc, il avait des responsabilités envers les personnes qu'il était supposé coacher, on va dire, ou mentorer, et il avait complètement échoué dans cette responsabilité-là, et en fait, ça lui a ramené tous les souvenirs qu'il avait avec, de tous ses échecs, etc. Et en fait, en le voyant comme ça, j'ai eu une impulsion, je me suis levé, je l'ai pris dans mes bras, je lui ai fait un câlin. Et ce câlin a changé sa vie. Et ça l'a fait devenir une personne totalement différente. Il a arrêté la drogue, il a arrêté l'alcool, il a complètement viré de bord, et aujourd'hui, il parle énormément d'amour et d'amour vrai, en fait. Il brille même tellement fort que parfois, c'est compliqué de rester à côté de lui, parce que tous les doutes que tu as, il les coupe, il les tranche. Il y a tout, si tu as le moindre brouillard, ça disparaît avec lui. Il te ramène directement à ton cœur qui aime. Il est extrêmement fort là-dessus.
Et du coup, aujourd'hui, t'as créé ce compte Instagram aussi, je pense, pour partager tes expériences et tes apprentissages. Mais du coup, tu cherches plus à aider les femmes ou à inspirer des hommes ?
Je cherche à inspirer tout court. Pour moi, il y a les deux. Alors évidemment, je suis un homme et aujourd'hui, je dirais que les hommes sont le plus en retard sur ce qui se passe. Et c'est a priori corroboré par la plupart des femmes qui viennent me parler. En sachant que la communauté de Clémence est déjà une communauté de femmes un petit peu particulière vis-à-vis du commun des mortels, on va dire. C'est des personnes qui ont déjà fait pas mal de voyages, qui ont expérimenté beaucoup, qui se sont retrouvées pas mal. Donc c'est déjà des personnes qui cherchent quelque chose de mieux. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de femmes qui soient dans cette position-là et très peu d'hommes, ça signifie déjà quelque chose. Et on m'a déjà posé la question de pourquoi est-ce que ça arrivait. Et globalement, en fait, les hommes sont juste en retard par un système un peu de pendule, on va dire. C'est-à-dire que les femmes se sont redécouvertes ces 30, 40, 50, 60 dernières années. Elles ont découvert leur liberté, elles ont découvert qu'elles avaient faim, en fait, qu'elles pouvaient faire plein de trucs. Et les hommes ont dû lâcher prise là-dessus, on a laissé faire, et puis ensuite, les règles ont été redéfinies, et on a commencé à la ramasse à se réadapter aux règles. Sauf que maintenant, les femmes sont en train de rechanger encore les règles, puisqu'elles se rendent compte que juste aller à droite à gauche non-stop, c'est pas si intéressant que ça, finalement. C'est cool pour l'ouverture d'esprit, c'est cool pour plein de choses, mais une relation qui va loin, ça, on peut pas trouver ça ailleurs. C'est quelque chose d'unique. Et donc elles reviennent vers ça parce qu'elles ont envie de découvrir ce que c'est que la profondeur d'une connexion, en fait, tout simplement. Et les hommes aussi, hein, d'ailleurs, découvrent aussi ce truc-là. Mais eux, ils sont encore au stade où, maintenant, on va à droite à gauche, c'est comme ça, le marché du dating, la séduction, il n'y a plus de mariage, de toute manière, 50% des mariages finissent en divorce, c'est plein de désillusions du côté des hommes, et qui en plus n'ont pas reçu des autres hommes au-dessus d'eux de quoi être équipés, en fait, pour gérer ça correctement et pour rester sur le droit chemin, on va dire.
Mais c'est marrant parce que la semaine dernière, je suis sortie avec une amie à un open air le soir. Et on s'est retrouvés dans une masse de petits jeunes de 20 ans. C'était très marrant parce qu'on était les seuls à presque 30 ans à danser au milieu de la piste. Et nous, on a la tchatche, donc on est allé voir des petits jeunes, on a dit « vous avez quel âge ?» et tout, parce qu'on ne savait pas trop quel âge ils avaient, tout, donc 20, 21 ans. Et on leur disait « vous allez voir, les meilleures années, c'est après. » On leur vendait bien nos 28-30 ans. Mmh. Et on leur disait « vous voyez comment à notre âge ?» Et les premières réactions, donc là, on parlait avec des gars, c'était « célibataire. Ah, célibataire. Vraiment seul, la liberté, tranquille. » Ah, ok. Bah, écoute, ok. Mais tu sais, ça peut être cool aussi d'avoir quelqu'un dans sa vie, hein. Enfin, de faire le chemin, de profiter de la vie. Tu peux aussi profiter de la vie avec une autre personne sur ton chemin. Enfin, c'est pas séparé, tu vois, justement. Tu peux regarder des trucs super chouettes à deux, comme un meilleur ami, etc. C'est pareil, quoi. Ça, ouais, mais bon... ouais, non, célibataire, quoi. Tranquille, l'argent, les fêtes. Ok, mais c'était très marrant. Du coup, ils sont déjà dans cette perspective d'être libre. Je mets des guillemets, on voit pas, mais je mets des guillemets, libre le plus longtemps possible. Je trouvais ça intéressant. Après, peut-être que ça changera en cours de route si la société évolue, hein, mais...
Ou juste avec l'âge.
Peut-être.
Ça finira quand même par changer, qu'ils le veuillent ou non. Mais oui, ça résume bien l'état d'esprit des jeunes de 20 ans.
Peut-être, peut-être. Mais entre nous, la moyenne des comportements des personnes de mon âge, voire plus, reste encore inscrite très largement dans cette liberté, entre guillemets, ou le choix de faire sa carrière versus de tisser des relations, quoi.
Alors, ça dépend. Là, je mettrai un petit bémol, c'est que je me suis rendu compte que ça dépend des cercles dans lesquels tu vas.
Ok.
Parce que j'ai redécouvert certains cercles d'amis étendus, on va dire, de ma génération, donc de ta génération aussi.
Ok.
Et qui n'étaient pas du tout dans cette optique-là.
Ah ouais.
Ils n'ont pas été éduqués comme ça. Alors, c'est souvent les métiers à longues études, notamment. Donc, tu vas avoir de la médecine, tu vas avoir des ingénieurs qui vont vraiment très loin. Parce qu'ils ont une stratégie d'investissement qui est très différente. Parce que quand tu te lances dans des très longues études comme ça, tu dois avoir un esprit où tu sais que ça va arriver beaucoup plus tard. Et donc du coup, même pour les relations, tu le vois un petit peu différemment. C'est beaucoup moins consommateur, on va dire. Donc ça dépend des cercles. Par contre, effectivement, quand j'ai voyagé et quand je faisais notamment beaucoup de soirées, de choses comme ça, et ben là, tu trouvais des personnes qui étaient beaucoup plus au jour le jour. Mmh. Et qui se voyaient continuer comme ça parce que ça leur apportait du bien. Donc okay. C'est vraiment des stratégies, il y a vraiment des cercles de population très très différentes, donc ça va aussi dépendre de comment tu t'entoures et des messages que tu veux bien consommer, parce que de la même manière que tu peux aller sur mon compte Instagram regarder les 45 abonnements que j'ai aujourd'hui, donc que j'ai fait exprès de n'avoir que ces 45 là puisque ce sont des personnes qui ont participé d'une manière ou d'une autre à mon développement sur ces 5 dernières années, dont beaucoup sur les 1 à 2 années précédentes. Alors que tu peux avoir des gens qui ont 500 abonnements, qui sont uniquement de la liberté, entre guillemets, des soirées, des voitures, des choses comme ça. Et donc, qu'est-ce qui nourrit en fait ton univers, tu vois ? Et ces deux univers sont là en parallèle en même temps.
Ouais.
Tu vas avoir des gens qui sont totalement dans un univers de consommation et d'autres qui sont totalement dans un univers de non-consommation, à l'inverse.
Mais il n'y a pas un équilibre à trouver ? C'est-à-dire que tu peux... Enfin, je veux dire, tu me parles des fêtes et tout. Mais il y a aussi un équilibre de vie à avoir. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, tu peux pas dissocier.
Il y a un équilibre. C'est pas forcément l'équilibre en fait chez les humains. Il est un petit peu rigolo parce que tu peux pas avoir le même équilibre tout du long.
C'est sûr.
En réalité, on a plus ce qu'on appelle des saisons. Donc, tu vas avoir des saisons où tu vas aller à fond sur certaines choses et d'autres où tu vas vouloir retourner complètement de l'autre côté. Et on a du mal encore à gérer un petit peu ces 180 qu'on peut faire en fait, de temps à autre. Donc tu vas avoir des moments où ton corps, ton être te demande de complètement lâcher et d'avoir beaucoup de choses comme ça. Et tu vas avoir des saisons en fait, où tu vas vouloir être très concentré sur autre chose et enlever toutes les distractions. Mais il faut pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont incapables en fait, de se passer de leurs distractions. Donc, est-ce que tu es capable de couper le téléphone pendant une semaine ? Est-ce que tu es capable de juste désinstaller toutes les applis pendant une semaine ? Est-ce que tu es capable de sortir un petit peu de ce cycle de la dopamine, en fait, tout simplement ? Et ça, il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, n'en sont pas encore capables. Donc, pour pouvoir trouver un équilibre, il faudrait déjà que tu puisses te balader entre les deux extrêmes. Si tu ne peux pas te balader sur les deux extrêmes, tu es encore prisonnier. Donc là, c'est pas une histoire d'équilibre. Et toutes les personnes qui sont prisonnières et qui me parlent d'équilibre, en fait, non. Je suis pas d'accord.
Ok. Pour avoir passé beaucoup de temps isolé au sens hospitalisation, au sens tout ça, j'étais complètement coupée de tout ça, mais pendant plusieurs mois. Je n'avais pas de téléphone, j'avais juste des livres et de quoi dessiner, pas de télé, rien. Et pour le coup, c'est énorme ce que ça te fait. Enfin, tu vas beaucoup plus loin dans tes réflexions, etc. Et c'est dur. Mais en même temps, à l'après, t'es libérée aussi de tout ça. Mais il faut le refaire régulièrement pour pas retomber dans le piège. Mais intéressant.
Mais c'est pour ça qu'il y a un concept qui a émergé il n'y a pas longtemps. Oui, si, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, mais qui est le dopamine détox. Qui est en fait tout simplement des jeûnes, mais de tout ce qui est tout ce qui a trait à la dopamine, en fait. Donc effectivement, la télé, les téléphones, les réseaux sociaux. Parce que se passer entièrement du téléphone, ça peut être compliqué logistiquement pour pas mal de personnes. Il y en a qui en ont besoin pour leur travail, il y en a qui en ont besoin pour garder contact avec certaines personnes, normal. Il y a aussi le principe que parfois on a du mal à ce que la vie se déroule sans nous, de plus se faire inviter, etc. Il y a ce sentiment-là, je crois en anglais c'est FOMO, Fear of Missing Out.
Ça c'est la peur de manquer quelque chose.
Ouais. C'est la peur de manquer un événement. On aurait dû être invité si on était constamment connecté, mais comme on n'est plus connecté, bah, on manque ça et en fait la vie se déroule sans nous. Mais en fait non, la vie se déroule toujours avec nous. C'est juste comment est-ce qu'on est agrippé à elle et qu'on a peur ou pas en fait. Et puis, normalement, quand on déconnecte, on n'a pas forcément besoin d'être seul. On peut aussi aller voir ses amis, etc. Le fait d'être seul, ça peut être une variante un peu spéciale aussi de la chose. Mais si on est juste tout seul sans rien faire, ça peut être compliqué. Si on a des projets, c'est déjà beaucoup plus facile d'être tout seul.
Ouais, c'est vrai. Et du coup, tu en as parlé un petit peu, mais du coup, ta précédente relation, c'est celle où tu as creusé un peu plus ces sujets-là et que tu as essayé de mettre en application certaines choses que tu avais apprises. Est-ce que tes efforts, quels ont-ils été et est-ce que ça a porté leurs fruits ? Porté ses fruits, plutôt.
Alors, je dirais que ça a porté ses fruits. Parce que si on regarde comment était la relation au tout début, comparé à la fin, on aurait pu se demander comment est-ce que c'est même arrivé, quoi.
Okay.
Parce qu'on était des personnes très différentes, en fait, quand ça a démarré et quand ça s'est terminé. Parce que moi, j'ai véritablement retrouvé mon alignement vis-à-vis du couple et de ce que je voulais pendant la relation, à peu près un an et demi après le démarrage de ce truc-là. Alors, je dis relation, pas juste au sens couple, hein, mais au sens on partage quelque chose avec la personne, au sens connexion, vraiment. Donc, à ce titre-là, une relation peut commencer très très tôt, en fait, avec une personne. Il n'y a pas forcément besoin d'attendre qu'il y ait le label du couple dessus. Même si ça ancre quelque chose à un moment donné. C'est quand même un label qui est très important. Donc, quand ça a commencé, j'étais en plein réalignement. Et elle, de son côté, pareil, elle ne se voyait pas, en fait. Elle pensait qu'elle ne s'attacherait pas. Okay. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les jeunes. C'est l'attachement comme une sorte de prison qu'il faut du coup éviter. Et donc, elle était très fière de me dire qu'elle ne s'attacherait pas au début de la relation. Et quand elle m'a dit ça, j'ai rigolé. Et je lui ai dit que du coup, on pouvait arrêter de se voir dès maintenant, puisque le but, c'était justement de s'attacher. Le but d'une relation, c'est de s'attacher. Parce qu'on ne peut pas tomber amoureux, on ne peut pas ressentir véritablement un amour extrêmement puissant en termes de romantique sans s'attacher. Ça n'est pas possible. On peut aimer quelqu'un sans s'attacher, puisque l'amour, le véritable sentiment d'amour est totalement indépendant de toutes ces choses-là. Il est non transactionnel, il est inconditionnel. Donc on peut aimer quelqu'un sans être attaché à la personne. C'est quelque chose un petit peu particulier, mais le côté romantique, par contre, il y a un attachement, forcément. Mm. Qui, du coup, amène également l'idée que si ça s'arrête, ça peut faire mal. Et donc, elle avait trouvé cette tactique-là pour ne pas avoir mal, si jamais ça s'arrête, de ne pas s'attacher.
Tu peux pas ne pas t'attacher si tu partages des choses avec quelqu'un, tu finis toujours par avoir un... C'est pas possible, on est des humains.
C'est ça, mais il y a des gens qui pensent qu'ils vont y arriver.
Heureux soit-il.
D'ailleurs, c'est ce qui mène à tout ce qui est sex friend, par exemple. Et comme je l'avais dit, je crois, sur une de mes stories, pour celles et ceux qui l'auraient vu, le statut de sex friend ne peut pas être tenu sur le long terme, puisque les gens finiront toujours par s'attacher, l'un plus que l'autre. Et c'est à ce moment-là que ça pète, parce qu'en fait, le contrat est rompu, le contrat de base qui était « on s'attache pas, on profite juste l'un de l'autre ». Mais non, il y en a toujours un qui s'attache. Et c'est d'ailleurs bien plus souvent la femme qui s'attache, parce que c'est comme ça que fonctionne son système, par rapport à l'homme. Ça, on pourra y revenir plus tard.
Et donc, t'as fait des efforts, ou en tout cas, t'as travaillé sur cette relation.
Alors moi j'ai appliqué évidemment tout ce que j'avais appris.
Mais sur toi, du coup, c'est pas...
Sur moi et sur elle aussi, en fait. C'est là où c'est un petit peu... Il faut commencer à étudier un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies masculines, féminines, ou en tout cas, quelles sont les vertus qui sont appliquées à ces choses-là, pour un petit peu comprendre. Parce que moi, du coup, j'ai travaillé justement... la version masculine, en fait, de la chose. Donc c'est par exemple, si on regarde un petit peu les derniers posts que j'ai fait, j'ai parlé d'engagement, j'ai parlé de stabilité, j'ai parlé de limites, ce genre de choses. Donc c'est des choses que je mettais en place tout de suite dans la relation, dès que je voyais que ça allait nous poser problème si je laissais passer certaines choses. Donc je me rappelle par exemle d'une occurrence, avant même qu'on commence à se voir, puisqu'on a commencé à parler ensemble pendant le premier confinement, donc on ne pouvait pas se rencontrer encore à ce moment-là. Mais je me souviens très bien d'une fois où, au gré d'une conversation, je l'avais oublié. J'avais oublié de lui répondre, alors qu'on était dans une conversation un petit peu prenante, on va dire. Mais j'avais quelqu'un qui m'avait appelé, mon meilleur ami qui m'avait appelé. Donc j'avais complètement oublié la conversation pendant 2 heures, parce que j'étais au téléphone avec mon meilleur ami.
2 heures, ça va.
Ça va, mais j'avais vraiment coupé net la conversation. Et elle, de l'autre côté, en fait, elle attendait une réponse. Elle attendait quelque chose. Et qui n'est jamais venu. Et ensuite, c'était le soir, j'ai constaté vite fait que, bah, ah oui, mince, j'ai coupé le truc, mais bon, il est l'heure d'aller se coucher, je vais me coucher, quoi. Et elle m'a rien dit. Elle m'a rien dit sur le moment, elle n'a pas fait montre de sa frustration ou de son énervement. etc. Donc, c'est passé comme ça. Et en fait, 2 semaines plus tard, il s'est passé la même chose, mais à l'inverse.
Boum, retour de bâton.
Sauf que cette fois, moi, j'ai réagi. Je lui ai dit, ben,
si on répond pas,
je trouve pas ça hyper respectueux, en fait, d'ignorer la personne de cette manière-là. Et j'aurais préféré que tu me dises, en fait, juste ce qui se passe, un petit message, et on se serait arrêté là, j'ai pas de problème. Et donc, elle m'a argumenté le fait que, bah, comme je l'avais fait, elle pouvait le faire. Évidemment.
C'est tellement... C'est malsain.
Bien sûr. Mais donc, là, tout de suite, j'ai rattrapé la chose en lui disant, si moi, je fais de la merde, évidemment
Dis-le.
Que je vais pas te laisser faire de la merde, toi. C'est genre, sois meilleur que moi, en réalité, sur cette situation. Et t'aurais dû m'en parler la dernière fois si ça t'a blessé, en fait. Parce que je me serais évidemment excusé, j'aurais rectifié la chose, j'aurais fait en sorte que ça n'arrive pas de nouveau. Parce que j'aurais appris que cette situation-là était importante pour toi. Même si on pouvait le deviner, évidemment, en revoyant le scénario à la base. Mais parfois, on se fait emporter dans le quotidien, dans les choses, dans l'esprit. Et puis, on ne s'était pas rencontrés encore. Donc, peut-être que voilà, la personne n'était pas totalement matérialisée dans la tête parce qu'on ne l'a pas encore rencontrée. Donc, ça paraît un peu irréel comme ça. Donc... Voilà, il y avait plein de raisons qui faisaient qu'on pouvait se dire, bon, bah voilà, ça se justifie. En fait, ça ne se justifie pas. Mais du coup, je l'ai rattrapé à ce moment-là. Et j'ai dû lui expliquer en lui disant, voilà, c'est même si moi, je fais de la merde, c'est pas une raison pour que toi, tu le fasses. Parce que sinon, on va juste
tourner
faire
en rond,
une
ouais,
spirale vers le bas. Et puis, à un moment, on va se cracher, puis c'est tout, quoi. Donc, ton ressenti est extrêmement important, mon ressenti est extrêmement important, et on va juste en parler. Et on va mettre ça sur la table, et puis voilà, et on va se rattraper l'un l'autre, en fait. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Donc ça, voilà, c'était le genre d'exemple, par exemple, de choses qui pouvaient arriver dans la relation, où je ne laissais pas passer, parce que je savais qu'à ce moment-là, il fallait que je pose une limite en disant non, non, là, on va pas faire ça, on va faire ça. Et à chaque fois que je disais ça, c'était évidemment pour propulser la relation vers le haut. C'est toujours quelque chose qui inclut les deux personnes, et avec une direction extrêmement claire, qui doit être lumineuse, qui doit être positive, où on voit... tout de suite pourquoi ça se fait. Aucune manipulation là-dedans, aucun « non mais moi je fonctionne comme ça, donc adapte-toi ». Non, il y a un but plus grand. Je te l'explique, t'es d'accord avec moi, t'es pas d'accord avec moi, on en débat, et une fois qu'on est tous les deux d'accord, on applique. Donc c'est comme ça que ça a fonctionné en fait le plus possible.
Et finalement, in fine, ça a quand même craché.
Alors ça s'est quand même arrêté, mais non pas cette fois parce que la relation s'est cassée la gueule complètement... qu'elle me manquait de respect ou quoi que ce soit, comme ça avait pu être dans la précédente. Mais tout simplement parce qu'on en était arrivé à un stade où c'était les projets, en fait, de la vie future qui ne concordaient pas de la manière dont on voulait que ça concorde, en fait, l'un pour l'autre. Et notamment pour moi, en fait, puisque ayant été élevé dans une très grande famille, je voulais également une très grande famille, en fait, de l'autre côté, et je voulais quelqu'un qui soit dans cette même disposition, en fait, avec moi, qui ait cette même ferveur dans la volonté d'avoir une famille, de s'en occuper, etc. Donc, par exemple, moi, je voulais diminuer ma charge de travail pour pouvoir passer plus de temps avec ma famille. Alors que de l'autre côté, j'avais quelqu'un qui, elle, avait un projet professionnel qui était super, en plus, puisqu'elle voulait faire veto et faire son propre cabinet avec des méthodologies un petit peu plus humaines, on va dire, sur comment ça se passe. Et elle voulait y passer beaucoup de temps et faire en sorte que le projet fonctionne, parce qu'évidemment, si tu te mets que à 40% pour faire ton projet, c'est difficile de faire fructifier ça, quoi. Surtout quand t'es supposé être le leader de ton projet. C'est-à-dire que si tu finis par recruter des gens avec toi et que t'es toi-même à 40%, bah les autres personnes ne vont pas mettre plus, quoi. Parce que t'es pas engagé. Donc c'était à peu près sûr que si ce projet-là devait se réaliser, il allait falloir qu'on fasse un compromis qui, moi, je savais, n'allait pas fonctionner avec moi, en fait. Et on n'était pas d'accord aussi sur... on n'était pas sur le même niveau sur la question du nombre d'enfants, sur la, voilà, la part des enfants, l'importance des enfants, la vision qu'on avait sur les enfants, etc. Donc là, c'est vraiment une histoire de projet futur qui ne collait pas.
Ouais, ça arrive.
Mais les interactions à l'intérieur de la relation étaient incroyables. La relation en elle-même était incroyable. Et c'est ça qui a rendu la rupture très difficile. C'est que, bah, on s'aimait toujours. Au quotidien, ça fonctionnait très bien. Mais le futur posait problème.
Ouais, ça c'est encore un autre... Ça peut pas coller à tous les niveaux tout le temps. Hein. Mais c'est déjà pas mal, parce que ça veut dire que la connexion et l'équilibre est possible, à condition de faire ce travail-là. Mais du coup, c'est quand même toi qui as impulsé le champ... Enfin, c'est toi aussi qui l'as élevé, je pense. Parce que du coup, elle aurait peut-être pas été naturellement dans cette dynamique-là comme tu l'étais.
À ce niveau-là, oui, puisque alors, je suis un petit peu particulier aussi là-dessus. Je mets vraiment énormément d'emphase sur ces choses-là et je reviens inlassablement jusqu'à ce que ça fonctionne, en fait. Je suis du genre à ne jamais abandonner. Donc quand il y a des problèmes, quand le message n'est pas compris ou pas reçu ou que je me sens pas écouté ou des choses comme ça, je vais simplement essayer de trouver un autre angle sans partir, sans devenir trop frustré, sans... Je vais essayer de comprendre l'autre personne en face de moi et me dire, bon, bah, si je lui en ai parlé avec A, peut-être que ça n'a pas marché, bah, peut-être que B va fonctionner. Ou peut-être que C va fonctionner. Parce que je me doute qu'il y a un moment donné où on finit par arriver vers quelque chose. Mm. Et c'est seulement si je me fais contrer là-dessus pendant très 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 longtemps qu'à un moment donné, je vais m'avouer vaincu, je vais dire, bon, là, j'ai tout essayé. Là, ça ne marchera pas. Mm. Mais d'abord, j'essaye, et je pousse, et je tire vers le haut, et je parle constamment, en fait, de vertu, je parle constamment de choses lumineuses, de où est-ce qu'on va, de qu'est-ce qui nous soutient en fait en haut, qu'est-ce qui fait que je suis aussi positif et optimiste sur ce qui se passe en fait. Je laisse pas l'autre personne tomber, donc oui, d'une certaine manière je l'ai poussée, mais elle m'a aussi soigné pas mal de choses par rapport à mes précédentes relations aussi. Être avec elle, c'est fait de... Voilà, le masculin et le féminin ne résolvent pas les choses de la même manière. N'apporte pas la même chose dans la relation. Donc je m'attendais pas à ce qu'elle ait exactement la même attitude que moi en face. C'est pas ce que je demandais.
Sur le sujet des relations en 2023, c'est quoi selon toi les plus grandes problématiques rencontrées par les femmes et aussi du coup du côté des hommes ? Est-ce que c'est l'engagement, la clarté, la peur du rejet, la déconnexion à nos énergies ? Je sais pas parce que c'est des choses dont tu parles. Est-ce qu'il y a vraiment des sujets qui reviennent souvent ? Des frustrations qui reviennent souvent du côté des femmes et ou du côté des hommes.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.